Salut les marques et salut les smarts, bienvenue sur Catch Up, le podcast qui transpire le catch. Ici, chaque semaine, nous analysons, nous commentons, nous critiquons parfois les shows de la WWE et consorts. Je suis Raphaël, je suis là pour le SmackDown du 17 avril 2020 et je suis accompagné de l'inévitable Tonton Chris. Comment ça va?
Salut Raphaël, yeah! Salut peuple de Catch Up, bienvenue dans le monde merveilleux du show bleu!
Ah, le show bleu toujours! Beaucoup de choses se sont passées à la WWE cette semaine, hein.
J'imagine. Grosse semaine.
Pas forcément des choses qui nous ont fait plaisir. Vous êtes probablement au courant que nous avons perdu beaucoup de nos superstars, des employés de la WWE. Il y a eu une grosse charrette, comme on appelle ça, de licenciement économique, hein, a priori.
Voilà, ouais.
C'est ça. C'est la WWE continue ses shows, mais est touchée. Donc, des noms comme Yves Slater, Rousseff, Sarah Logan et autres.
Eric Rowan, les aussi. Ça,
Eric Rowan, Gallows et Anderson, Ryder et Hawkins.
Ah oui, aussi, ouais. Oh là 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 là. Plus ouais. Des producteurs, des catcheurs de NXT aussi.
Exactement, des arbitres historiques.
Je crois que le chiffre exact, la WWE s'est séparée de 40% de son personnel.
Ah oui, eh ben, c'est possible.
Imagine un peu le plan social Maus costaud.
Ouais. Donc, ce qu'on vous propose, chers auditeurs, on va analyser ce show, ce SmackDown qui continue quand même. Et puis, on commentera un petit peu, on reviendra sur tout ça. Restez jusqu'à... Et on commentera un petit peu tout ce qui s'est passé. Notre avis, bon, évidemment, voilà, difficile d'avoir un avis positif sur tout ça, mais on peut revoir un petit peu ces noms-là, la raison. On va se concentrer sur le show. T'es prêt, Chris?
Ouais, je suis prêt, ouais. Ouais, je suis prêt. Prêt comme jamais.
Prêt comme jamais. Alors, on a commencé sur un petit moment de bonheur, comme on dit, un moment of bliss. Donc, Alexa Bliss.
On m'appelle dans l'oreillette, Raph, je te coupe là, mais je crois qu'on a un invité surprise là.
Allô,
Cognac J?
Allô.
Allô, Cognac J? Ah, j'entends bien quelqu'un dans mon oreillette.
Ah, oui, c'est moi.
Voilà l'ami Kyrias, comment vas-tu?
On fait aller.
Bravo. You deserve it.
Ah, ça fait plaisir de réentendre Kyrias parce que les rumeurs disaient qu'il était sur la liste.
Oui. Vince McMahon avait commencé à envisager à lui envoyer sa lettre de licenciement. Mais il est toujours là, le bougre.
Ouais, ça s'est joué entre lui et Rousseff, je crois. Bon, écoute, alors on va tout vous dire, on est transparent avec vous, chers auditeurs. J'ai quelques problèmes techniques, donc au cas où mon micro coupe ou quoi, puisque ça m'est arrivé pendant nos phases de test, on aura l'ami Kyrias qui pourra nous sauver. Vous aurez quand même au moins deux chroniqueurs, si c'est pas trois, si tout va bien, ça serait quand même formidable qu'on soit à trois. Alors nous on accueille Kyrias, par contre Alexa Bliss et Nikki Cross, elles accueillent Braun Strowman, donc on est dans les bons gabarits. Braun Strowman qui, c'est officiel, affrontera Bray Wyatt au pay-per-view Money in the Bank. Mais attention, hein, c'est bien marqué, Bray Wyatt, c'est pas The Fiend, hein, c'est a priori, c'est Bray Wyatt, c'est le monsieur avec le pull là qui avait affronté le Miz aussi. Donc, Alexa Bliss nous dit, Braun, Bray, il raconte que il t'a créé et tout. Alors Braun, il dit non, moi je dois rien à Bray Wyatt, je lui dois pas des excuses. Je me suis fait tout seul. Bray, il essaye de nous rentrer dans nos têtes, là, de la manipuler. Mais moi, je vais pas jouer ce petit jeu-là. Tout ce que tu auras, Bray, c'est ses mains. Get this hand. Et puis Braun Strowman remarque qu'il y a un petit paquet cadeau au bord du ring. Alors il dit, oh, c'est gentil, Alexa Bliss, de me faire un cadeau, tout ça, on est potes, les Team Little Big et tout. Alors Alexa Bliss, ça fait non, c'est pas moi. Il ouvre le paquet cadeau et il découvre le masque des moutons noirs, son propre masque. Qu'il portait quand il était dans la Wyatt Family. Ça va être intriguant d'ailleurs de voir comment ils vont poursuivre cette feud sur l'angle Wyatt Family alors qu'ils en ont viré la moitié. Mais voilà, donc les rires de Bray Wyatt retentissent dans la arène. Et on voit même le très vieux clip de Bray Wyatt époque Wyatt Family, là, quand il y a les photos en noir et blanc qui passent très vite. Et on voit une photo de Braun Strowman de cette époque avec son masque. Alors voilà, mindset. Bah tiens, Kyrias, puisque tu viens d'arriver, est-ce que tu peux nous donner ton avis là-dessus, sur cette séquence?
Oui, Braun Strowman montre pas beaucoup d'intelligence en ouvrant un cadeau dont il ne connaît pas le donateur. C'est ça aurait vrai, pu ça être...
Une bombe.
Ouais, non, on sait pas, ça aurait pu être un truc bizarre encore, quoi. Une l'araignée de Rowan, par exemple.
Oui, oui, c'était plutôt soft, au final.
Et non, enfin, ils ont bien rappelé, ils ont fait un petit clin d'œil à l'association Bliss-Strowman, donc c'était pas trop mal, pour une fois qu'ils se souviennent des interactions qu'ils ont ensemble. Après, non, segment plutôt banal, j'ai envie de dire. Après, je suis plutôt intéressé du développement, mais pareil, face à Bray Wyatt et pas The Fiend, c'est plutôt surprenant.
Ouais, ouais, c'est clair que ça a pas un fond très très extraordinaire. J'avais préféré ce qui s'était passé la semaine dernière avec l'interaction du Firefly Funhouse. J'avais trouvé ça plus sympa. Là, pour le coup, c'était vraiment vraiment pas très folichon cette affaire, quoi.
Bon, unanimité, c'est pas voilà, c'était pas très recherché dans l'écriture. Et tiens d'ailleurs, il devait pas y avoir un nouveau tournoi mixte machin là.
Ah.
Non.
Aucune idée.
C'est moi qui rêvais.
Ah ouais, non, je crois pas. Ouais, je crois que la seule interaction mixte match challenge, c'est plutôt un peu dans le cadre de quelque chose sur lequel on va arriver un peu plus tard. Donc.
Non, non, mais.
Là, je sais pas. Enfin, je sais pas ce que vous en pensez vous, mais. Moi, je trouve bizarre d'utiliser Strowman sur un segment comme ça, quoi. Qu'est-ce qu'il vient foutre, finalement, dans un espèce de truc de talk show comme ça ? Moi, je trouve que ça colle pas avec ce personnage, quoi. Ce mec-là, c'est un monstre, c'est un destructeur, c'est un méga balèze, quoi. Quel intérêt de l'avoir, là, avec les deux minettes ? Je trouve pas l'intérêt de ça.
Bah, j'ai l'impression qu'il joue beaucoup sur son côté, au contraire, plutôt sympa et plutôt gros nounours, là, qui boit son petit café avec les filles. Et après, Kyrias a raison, il faisait un peu pâteau là, à sortir. En plus, il a pas trop été bon dans l'acting, je trouve, de la surprise du cadeau et de l'ouverture du cadeau.
C'est relou, ça. Ça vous intéresse, ça, de voir...
Non, non, moi, genre, je préférais le voir botter des culs.
Ah, voilà.
Assez violemment, faire des squash, pourquoi pas, quoi. Sur du petit jobber.
Bah oui, en plus, en ce moment, c'est un peu Jobber's World. Hein. À NXT, à Raw, à SmackDown, et ils n'arrêtent pas de s'en prendre plein la gueule, les jobbers. Et là, tout d'un coup, on choisit de mettre Strowman dans un segment avec les deux nénettes. Ouais, je sais pas, moi, ça m'a vraiment surpris. J'ai trouvé ça sans aucun intérêt. Et vraiment... Pour moi, ils sont à côté de la plaque, là. S'ils nous vendent cette rivalité qui, pour le coup, pourrait m'intéresser, moi, mais c'est vraiment pas du tout à travers ce genre de segment qu'ils vont m'intéresser à ce truc-là.
Oui, moi, je suis plutôt d'accord sur le segment en soi. Après, c'est, voilà, le mindset, c'était pas... Enfin, le mind game était pas ouf. Cette histoire de masque, bon, après, c'est des catcheurs, ils sont pas forcément très, très malins, mais si on base tout sur ce masque de mouton noir, c'est un peu... Et puis, oui, c'est sur les filles qui sont là. Bon, ça sera temporaire, puisque la semaine prochaine, les filles seront en action. Elles défendent leur titre tag team. On va continuer chez les filles, justement. Alors, Sasha Banks affronte Tamina ce soir. Et si Tamina gagne, elle affrontera Bayley pour le titre féminin de SmackDown. Bayley est là aux commentaires. Sasha Banks domine plutôt le début de la rencontre et à l'extérieur, Bayley va même l'aider puisqu'elle va distraire Tamina. Tamina va prendre le poteau, elle va prendre les escaliers dans la tronche, mais Lacey Evans débarque de nulle part à toute vitesse. Elle se projette sur Bayley, elle fait une espèce de coup de coude. Et donc Tamina ensuite n'a plus qu'à faire un super kick pour piner Sasha Banks. Donc voilà, on a la challengeuse de Bayley, ça sera Tamina. La Samoane a gagné plutôt rapidement. Ensuite, plus tard, avec Charlie Caruso, Lacey Evans nous dira tout. Elle veut se venger de Sasha Banks. Elle ira le plus loin possible. Elle veut se débarrasser. Et elle a même sur son joli point, sur son droit féminin, sur son woman's right, elle a marqué Sasha Banks barré. Donc voilà, on part sur des feuds qui continuent là, avec toujours ces mêmes femmes. Tamina, challenger au titre mondial de Bayley. Tonton Chris, je sais que tu adores parler de tout ça, donc je te laisse la parole.
Oh putain, que du bonheur, que du plaisir. Voilà. Kiffé, mais alors, d'une puissance ! Non mais franchement, qu'est-ce qu'elle vient nous foutre là, la Tamina, là ? Non mais voilà, elle s'obtient un title shot d'out of nowhere. Donc, moi, je sais pas. Moi, de toute façon, la division féminine à SmackDown, je sais pas, je sais plus. Et puis, alors, Bayley. Non, mais Bayley, franchement, la nénette, elle est championne. Elle est championne du monde, quoi, quand même, quoi. Et maintenant, elle sert de backup à Sasha Banks, quoi. Enfin, moi, franchement, je n'y comprends rien. Moi, il faut qu'on me présente le booker en charge de la division féminine de SmackDown, parce que moi, j'aurais quelques mots doux à lui dire, à ce jeune homme. Et toi, Karias, tu sens la chose comment, là ?
Un peu comme toi, en fait, pour tout dire. Bayley au commentaire, mais c'était d'une atrocité. Oh là 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 là.
Ah ouais, ah ouais.
Et après, le passage de l'arrivée de Lacey Evans, qui sort d'on ne sait où, enfin, on ne sait si on sait d'où, mais on ne sait pas pourquoi, elle arrive en 2-2 pour... J'ai rien compris au segment, en fait. Heureusement qu'ils ont fait un petit peu de vidéo avec l'interview après, mais pareil, enfin, pour finir avec le sens interdit avec Sacha dessus, enfin, le sens interdiction de Sacha, quoi. Non, enfin, c'est du n'importe quoi, c'est incompréhensible.
Ouais, voilà, ça n'a pas de sens, quoi. Je crois pour personne, quoi. Mais toi, Raph, ça a du sens pour toi, cette affaire?
Down. Pas terrible, hein. Je sais pas trop quoi réagir de plus que vous, parce que oui, déjà Tamina en 2020, ça me fait pas trop rêver, et pour le reste, on a déjà écouté nos précédents SmackDown, on a déjà un peu tout dit sur tout ça. C'est pas...
mais attendez, il y a juste
pas,
un
ça
truc
fait qui... pas, ça fait pas un très grand line-up, hein, ça fait pas rêver.
Ah non, mais attendez, mais il y a juste un truc que j'ai que je vais... attends, il y a un truc que je vais être bien sûr de comprendre, moi.
Oui, oui.
J'ai bien compris que Tamina, elle obtenait un title shot là.
Oui, pour Money in the Bank.
Pour Money in the Bank, on est bien d'accord. Donc, on est bien d'accord qu'on va avoir une affiche, si on peut appeler ça une affiche, Bayley, Tamina pour le titre mondial de SmackDown.
Ah oui, oui, oui.
Donc, c'est ça. J'avais bien compris. D'accord, okay.
Tu veux qu'on te le répète ?
Non, non, mais ça, le fait de le dire tout haut, là, ça y est, ça vient de me monter au cerveau.
Là. Ah bah oui, oui. Alors, tu pronostiques ?
Le pronostic le plus difficile de l'année, je pense. Non, bah, parce que la Tamina championne du monde, je vous laisse imaginer la review de Bank.
Ah bah attends, Money in the Bank va nous réserver pas mal de surprises, je pense. C'est bon pour toi, Chris, on passe à la suite.
Ouais, excusez-moi les amis, c'était mon moment d'absence et pas bien.
Ah, je vous ai perdu là.
Alors, je voulais je suis toujours là.
Suite, moi aussi, je suis toujours là.
À moins que vous m'entendiez. Oui, ah, si vous m'entendez, alors bon, la suite. Alors, de toute façon, c'est très rapide. C'est Sheamus qui a défoncé la tronche d'un jobber qui s'appelle Denzel Dejournette. Je ne sais pas s'ils leur prennent leurs noms locaux de catcher ou s'ils leur inventent des noms pour la soirée. En tout cas, c'est toujours de plus en plus d'originalité. Et alors, c'était notre ami Papy, je crois bien, sur Discord, qui sentait venir cette rivalité. Sheamus, il est jaloux de Jeff Hardy parce que à la fin de ses matchs à Sheamus, on passe toujours des clips de Jeff Hardy. Malheureusement, le segment de ce soir lui donne raison, puisqu'on enchaîne sur un clip de Jeff Hardy, qui en fait, j'avais pas compris la semaine dernière, mais on est en trois semaines, trois histoires de Jeff Hardy. Donc la semaine dernière, c'était sur ses débuts. Là, on est sur la mauvaise période, on est sur Jeff Hardy qui se drogue, Jeff Hardy qui est alcoolique, Jeff Hardy qui fait des bêtises, qui est chopé avec je sais pas combien de pilules, de médicaments, de trucs chez lui. Bon, ça paraît vieux, mais il y a quand même des condamnations qui datent de 2018, hein, c'est pas si ancien. Et voilà, et puis bah, la semaine prochaine, et bah, ça sera Jeff Hardy, la rédemption. Sheamus Jeff Hardy, une feud 2009 ou 2020, Kyrias, tu la sens comment cette histoire ?
Je m'inquiète surtout pour l'état de santé actuel
des deux ?
Des deux ? Enfin non, pas des deux, mais de... comment il s'appelle ? Excusez-moi, j'ai un trou.
Jeff ?
Jeff Hardy.
De Jeff Hardy, ouais.
Et après Sheamus, je m'inquiète pas pour son état de santé, mais plutôt pour son booking. Le gars était revenu en mode je vais tout défoncer, et au final il a rien fait, il était pas sur la carte de WrestleMania, là il se bat même pas pour le Money in the Bank, où il a trouvé Jeff Hardy, mais qu'est-ce que ça peut donner dans un ring, quoi.
Ouais, moi je suis moins...
Je suis dubitatif, hein.
Ben. Ouais, moi je suis peut-être un peu moins inquiet par rapport à la qualité in-ring, quoi, tu vois, parce que entre Jeff et Matt, les des deux frangins, celui qui est peut-être le moins abîmé, c'est peut-être encore Jeff malgré tout. Et puis Jeff, il me donne la sensation d'avoir envie de revenir, de recatcher, d'avoir envie de... Enfin voilà, il a l'envie d'avoir envie, quoi, le Jeff, quoi. Mais et après, bah, contre Sheamus, face à un worker aussi pro que l'Irlandais, il y a peut-être moyen qu'il nous sorte un match pas trop mal, quand même.
Moi, je suis un peu dubitatif. Sheamus, on pensait qu'il s'était fini de sa carrière, même à un moment, donc il y a eu pas mal d'histoires sur ses blessures diverses. C'est vrai que depuis qu'il est revenu, t'as souligné ça, Kyrias, on l'a vu faire pas beaucoup de matchs, pas mal de défenses de jobber, donc c'est pour ça que je disais l'état de santé des deux, parce que lui aussi, on a du mal à se rendre compte un peu de son niveau, est-ce qu'il a son level world champion comme il avait il y a 4-5 ans.
Ouais.
Je sais pas, ça m'étonne un peu, oui, qu'ils mettent ces deux vieux catcheurs un peu usés, un peu cassés ensemble, mais peut-être que c'est pas plus mal, effectivement, que de les mettre dans des courses pour les titres. Je sais pas, il y a pas mal de rumeurs sur l'internet wrestling à propos d'un push qui devrait arriver, Jeff Hardy, pour le relancer. Déjà, l'histoire des clips, là, des 3 semaines où on nous raconte sa life, c'est quand même... Je pense qu'ils veulent mettre un peu... Ils vont capitaliser, là, ouais, sur Jeff Hardy.
C'était chaud, quand même, hein, cette affaire-là, de le présenter avec l'histoire de la drogue, de machin. J'ai trouvé ça, limite, pas très PG, en fait, quoi.
Ah bah oui, bourré, là.
Ouais, bourré, ouais. Ouais, exact, ouais, dans le paquet de bois bourré. C'était j'étais vachement surpris de ça, quoi. C'était je suis pas sûr que ce soit un truc quand même très très habituel à la WWE, ça.
Bah, ils ont pas beaucoup de catcheurs alcooliques non plus, Jeff Hardy. Jeff Hardy, c'est le Johnny Depp un peu de la WWE, quoi. Bon, écoute, je te laisse te remettre de tout ça, Chris. On continue, on repart chez les filles, parce que les filles, finalement, il y a eu, on en reparlera plus tard, mais dans la charrette, il y a eu surtout des hommes, hein, pas beaucoup de filles, donc c'est normal que les filles aient le pouvoir. Dana Brooke a un match de qualification pour le fameux Money in the Bank match contre Naomi. Elle se fait un peu engueuler en coulisses par Carmella, qui lui dit « Eh, dis donc, la semaine prochaine, n'oublie pas qu'on a un match tag team, est-ce que t'es sûr que tu vas pouvoir être concentré pour les deux ?» Bon, c'est ce qu'on appelle une bonne amie, hein, c'est un symbole de l'amitié, elle a bien encouragé sa pote Carmella. Et malgré ça, et ben Dana Brooke, malgré l'affrontement que lui, l'opposition que lui donne Naomi, qui va lui envoyer une série de kicks un petit peu partout, qui va même lui passer son finisher, son fameux coup de fesse, et ben Dana Brooke, elle se relève de tout, et elle réussit même discrètement à placer un tombé et à l'emporter. Donc Dana Brooke rejoint la liste des qualifiés pour le Money in the Bank féminin. À Raw, on a déjà les trois, hein, on en a parlé, je vous laisse écouter l'analyse de Monday Night Raw de cette semaine. On a notamment Shayna Baszler qui devrait envoyer du bois. Dana Brooke peut-être survivra à tout ça. Est-ce que ça serait son premier, ça, j'ai pas fouillé dans ses archives, Chris, toi qui as une mémoire vivante, est-ce que tu te souviendrais de Dana Brooke dans les échelles?
Dana Brooke dans les échelles, alors là, my god, non, je ne sais pas, quoi. Déjà, moi, j'étais tellement sidéré qu'elle gagne le match, là. Parce que vraiment, pour moi, ça me paraissait tellement, tellement évident là, que Naomi allait gagner. Vraiment, j'étais vraiment en mode confiance pour Naomi. Et vraiment, grosse, grosse surprise de voir Dana porter ce match, quoi. Là, franchement, j'avoue que vraiment, là, ça a été vraiment quasiment le plus gros moment de surprise pour moi depuis le début du show, là.
Mm-hmm.
J'ai trouvé très bizarre ce finish. Déjà qu'elle kick out au finisher de Naomi.
Ouais.
Et ensuite, c'est un sunset flip, je crois, sa prise de finition, là, enfin, sur laquelle elle fait le tomber. C'était pas très bienvenu, c'était pas pareil. J'étais très surpris du résultat de ce match. Donc, Dana Brooke on fire. Et sur la ligne des tag teams et du Money in the Bank, mais on m'aurait dit ça il y a quelques temps, j'aurais pas cru du tout, quoi.
Ah bah pareil. Donc,
il y a une semaine et demie, ouais. Même pas.
C'est ça, ouais.
Ah, déjà, rien que le fait qu'elle ait gardé son job, c'était déjà magnifique. Alors qu'en plus, elle gagne un match qualifié au Money in the Bank, là, franchement, chapeau Dana. Je sais pas ce qu'elle a fait backstage pour en arriver là, mais vraiment respect, quoi.
Ah, elle a fait des efforts. En tout cas, Dana Brooke, on la voit depuis des années essayer de faire des efforts, ça, c'est sûr.
Ah, mais... ça, ouais. Ça, on peut pas lui reprocher son assiduité et le fait qu'elle se bat comme une dingue pour continuer à avoir du temps d'antenne. Et elle l'a déjà revendiqué souvent sur les réseaux sociaux et tout ça, hein, que que voilà, qu'elle bossait, qu'elle proposait des idées aux créatifs. Que... Donc c'est peut-être justement, c'est peut-être sa persévérance qui vient de payer là.
Peut-être. Et est-ce qu'on peut parler du look de Naomi ce soir-là?
Oh la vache!
Moi j'ai eu beaucoup de mal là. Donc j'ai une tenue d'une couleur bizarre. Ouais, bof, voilà. Une coiffure un peu étrange avec des espèces de petits kiki à la Mickey Mouse là. Bon, ben voilà, Naomi a perdu. Voilà, elle va pouvoir réfléchir à un nouveau style peut-être.
Mais... Ah ouais, ça piquait les yeux.
C'était. Bon, on aime bien être chez les filles. On va rester chez les filles. La storyline préférée de Chris, la meilleure storyline de SmackDown, d'après Chris, hein, c'est lui qui le dit. C'est évidemment l'angle, la romance, le vaudeville autour de Mandy Rose. Donc Mandy Rose, ce soir, est réclamée sur le ring par Sonya Deville. Sonya Deville arrive. Elle nous dit, et voilà, Mandy Rose, Mandy, hein, je t'ai laissé des messages sur ton tel, je t'ai envoyé des SMS, tout ça, tu me réponds pas, tu me laisses pas d'autre choix que là de mettre tout ça un petit peu sur la place publique. Donc, s'il te plaît, viens, voilà. Et puis Mandy Rose, elle arrive. Elle lui dit, en gros, écoute, meuf, j'ai pas grand chose à te dire après ce que t'as fait à Otis et moi. Sonya, elle lui supplie, elle lui dit, mais depuis tout le temps, quand même, qu'on se connaît, tout ce qu'on a fait ensemble, voilà, depuis NXT, on était, voilà, merde, comment ça s'appelait avec Paige, Absolution, Fire and Desire, tout ça. Alors, au début, elle est larmoyante, et puis après, voilà, elle tourne son regard, elle lui fait, en fait, t'es qu'une sale égoïste pendant toutes ces années où moi, je me défonçais le cul à nous pousser vers le haut avec notre tag team. Toi, tu voulais juste les belles photos, les lumières, le spotlight. Tu t'es jamais concentré sur notre carrière. On aurait pu être champion de tag team. On aurait pu avoir un match à WrestleMania. Dolph Ziggler, il voulait nous aider dans notre tag team. Donc moi, je l'ai aidé en échange à te pécho, en gros. Et voilà, t'as gâché ma vie.
Ah, on a perdu notre host. Voilà, donc on en était à... Il a gâché sa vie.
Marc.
Ah, il est de retour. Il est de retour.
Pour calmer tout le monde.
Voilà,
Ziggler, il est lui aussi dans le mea culpa. Il dit à Mandy Rose, écoute, désolé, j'ai fait une grosse erreur, mais s'il te plaît, regarde-moi dans les yeux. Ça a dû te plaire, Chris. Regarde-moi dans les yeux, dis-moi que tu n'as pas de sentiment pour moi. Et Sonya Deville en profite pour lui mettre une danse, une bonne claque dans la gueule, ou un coup de coude, je crois. Otis arrive pour attaquer Ziggler, qui n'avait rien demandé. C'est pas grave. Sonya Deville saute sur Otis pour tenter de lui faire un sleeper hold, mais Mandy Rose viendra lui la faire tomber. Et Otis va ensuite passer un petit caterpillar sur Dolph Ziggler. Donc Dolph et Sonya s'en vont et Dolph Ziggler dit clairement, c'est pas fini tout ça, it's not over yet. Donc voilà Chris, c'est pas fini tout ça.
Non, c'est pas fini, le calvaire continue. Et pourtant... Cette semaine, j'ai failli être rassuré, puisque on a annoncé que le producteur qui était en charge de la storyline Otis Ziggler Mandy Deville avait été viré. Donc je me suis dit, ah, ils vont peut-être passer à autre chose, ils vont évacuer cette rivalité, puis on va avoir droit à un autre truc. Bah non, que dalle, on continue. Visiblement, ils sont trop heureux à la WWE d'avoir créé cette storyline. Pour eux, c'est the best ever. Donc voilà, donc on continue allègrement dans ce truc-là. Je ne sais pas toi si Kyrias, tu kiffes ce truc-là, mais alors vraiment, moi ça me déprime. Quoi.
Ça me déprime aussi. Alors après, j'étais plutôt étonné de la promo de Deville, de Sonya Deville, que j'ai trouvé plutôt maîtrisée. J'ai eu énormément peur que ça tombe dans un angle amoureux entre les Fire and Desire.
Ah ouais.
Mais ils sont pas tombés là-dedans, donc ouf. Et non, après, bon bah le Otis qui vient, enfin je, une, voilà, c'est tout ce que j'ai envie de dire.
Bon, bah tout le monde est d'accord. Moi, je suis d'accord avec Kyrias. Déjà, j'ai eu très très peur là que Sonya Deville elle déclare sa flamme à Mandy Rose. Et je l'ai trouvé plutôt, enfin de toute façon, des deux, c'est Sonya Deville qui est la plus intéressante in-ring et tout, mais. Ouais, je l'ai trouvé plutôt bien au micro. Après, bon, c'est pas ouf. Et effectivement, This is not over yet, c'est pas forcément une bonne nouvelle pour nous. Hein.
Ah non.
Ah oui, non, je pense qu'on en a encore à manger pour un petit bout de temps.
Oh là 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 là.
Bon courage au scénariste qui reprend ça.
La purge. Ah ouais. Ah bah non, mais le gars, imagine, le gars qui a repris le poste de la nana qui a été virée, là, il a dû se dire, ah bah merci le cadeau, quoi.
C'est bien une storyline de gonzesse.
Oh là là, attention là, toi.
Attention. Allez, on va pas... Non, bon, là, un peu plus sérieux, un petit peu plus triste. On nous a passé un clip remémorant la carrière de Howard Finkel, donc qui est décédé ces derniers jours, je sais plus exactement, avant-hier, je crois.
Avant-hier, ouais. Ouais.
Avant-hier, donc annonceur historique qui a côtoyé Hulk Hogan.
La crème de la crème.
Chris, je te laisse en parler. Voilà,
parce que rest in peace Howard Finkel, hein, parce que Howard Finkel, c'est l'une des plus grandes voix de l'histoire de la WWE, quoi. L'un des plus grands annonceurs, si c'est pas loin d'être le plus grand, en tout cas des années 80 jusqu'à la fin des années 90. Voilà, quoi. C'était la voix des shows WWE. Pour dire à quel point l'impact du gars, même le Madison Square Garden, c'est fendu d'un message de respect envers Howard Finkel pour le remercier de tout ce qu'il a fait. Et en plus, c'était un mec drôle, c'était un mec qui participait au segment, qui mettait des perruques, qui se déguisait. C'était génial. Et son timbre de voix était un peu comme celui de Kyrias, quoi. Il était totalement reconnaissable entre mille, quoi. C'est-à-dire que voilà, Howard Finkel, il ouvrait la bouche. 2 secondes plus tard, tu savais exactement à qui tu avais affaire. Et moi, j'adorais ce mec, quoi. Donc, vraiment, une grande tristesse d'apprendre la mort de Howard Finkel. Bon, ça faisait longtemps, hein, très longtemps, ça faisait plusieurs années même qu'il n'était plus actif à la WWE. Il se déplaçait en fauteuil roulant et il était très, très affaibli. Et voilà, quoi. Donc voilà, à 69 ans, hein, c'est encore jeune. Hein. Donc, 69 ans, malheureusement, le chemin s'arrête pour lui, mais... Il était Hall of Famer depuis 2009, je crois. Et voilà. Et je ne t'oublierai pas. Oh. Je ne t'oublierai pas. Quand je me regarde des vieux matchs old school, ta voix est toujours présente.
Bon, ouais, moi, je dirais juste que je ne l'ai pas connu activement. J'ai commencé après son départ. Donc, de ce que tu en dis, respect à l'homme et à sa carrière.
Voilà. J'espère que pour lui, comment il dit ça à la WWE quand il vire quelqu'un là déjà. On lui souhaite le meilleur pour ses projets futurs. J'espère que ça sera le cas au paradis du catch. J'espère qu'il aura le meilleur pour ses projets futurs là-haut.
Voilà, bel hommage de la part de Chris, qui a sensiblement le même âge hein, que.
Ah le salaud. Ah mais le Raphaël aujourd'hui. Il est immonde. Il est presque en mode ignoble ringside là.
Ah bah c'est mon matériel technique qui m'énerve, alors je me venge sur les êtres vivants. Alors juste après ça, on nous place un petit clip discret sur les fameux Forgotten Sons. Les enfants oubliés, pas les chansons oubliées.
Les fils oubliés.
Donc voilà, bah, les trois montées de NXT dont on a parlé, ça fait longtemps. Avec les histoires de NXT, on n'a plus trop ces packagings qu'on avait avant pour nous monter un peu des catcheurs. Donc bah voilà, on verra bien ce qu'ils en font. Je ne sais pas si vous voulez réagir plus que ça là-dessus.
Bah, moi, j'avais réagi déjà la semaine dernière, mais je suis curieux d'entendre l'avis de Kyrias là-dessus.
Est-ce que tu les connais, Kyrias?
Oui, alors de NXT, du coup. Ouais. Après, effectivement, c'est bien de balancer des spots vidéo pour les présenter après leur arrivée. Ça aurait été mieux de le faire avant.
C'est pas faux.
Et nous après, mais dans mes versions, j'ai pas vu cette vidéo de promo, donc je saurais pas trop dans le fond dire ce que c'est, si c'était bien foutu ou pas. Après, sur leur arrivée dans le main roster, un peu là encore dubitatif. Les gars ont pas fait grand chose à NXT, enfin en termes de palmarès.
C'était
qu'est-ce qu'ils vont faire à SmackDown, quoi.
Ouais, voilà, ouais, mais c'était des jobbers à NXT, t'es d'accord, Kyrias, t'es un suiveur de
NXT. Oui. C'était des bons jobbers, mais voilà, ils ont pas pris le titre une fois, quoi. Je suis même pas sûr qu'ils aient eu beaucoup de title shots. Ils ont dû avoir un ou deux, mais pas plus à mon avis, quoi.
Ouais, c'est ce qu'on disait la semaine dernière, ouais, avec Chris. On verra bien, hein. Il faut bien aussi faire monter des gens dans la catégorie de jobber. De toute façon, si on, quand ils font monter des main eventers de NXT et qu'ils les foutent jobber, ça nous énerve. Alors là, au moins, on sait direct qu'on peut les voir dans cette catégorie-là.
Et après, ils peuvent que monter
Ouais.
en régime, quoi.
Ouais, et
Donc
puis ils vont
là,
peut-être. Ouais. Et ils
à
vont
eux
peut-être
de faire leur preuve.
ils vont peut-être profiter aussi de toute
Alors,
la
qu'est-ce qui nous
charrette. Donc.
attend? Il nous attend un match qualification pour le titre, pardon, pour le Money in the Bank match, donc masculin, ce coup-ci entre Cesaro et Daniel Bryan. Chacun est accompagné par son ami. Alors, est-ce que vous m'entendez?
Ouais,
Oui.
ouais.
Oui. Donc, Cesaro est accompagné de Nakamura. Bryan est accompagné de Drew Gulak. On a un match. Bon match de la soirée peut-être. Cesaro très rapidement passe sur la table des commentateurs parce que Bryan fait un suicide dive. Et très vite, tout d'un coup, nous avons un hacking. La WWE est hackée, SmackDown est piraté. Nous revoyons le hacker qui avait dévoilé l'intrigue de Otis et Ziggler. Et donc il nous dit que Truth will be heard, la vérité va être entendue. Et il nous passe un clip où on voit notamment les champions tag team féminines, le New Day, Miz and Morrison, et alors on est plusieurs à pas trop avoir compris ce qu'il a dit, mais un truc sur les amitiés qui vont être révélées ou décelées. En tout cas, c'était en plein milieu, et quand ça a repris, on a fait comme si de rien n'était. Bryan a travaillé pendant longtemps le bras de Cesaro, le bras gauche, la nature pour soulever Bryan, pour lui faire des sortes de bombes pour un petit peu s'en débarrasser. Il a fait une énorme manchette aussi sur les barricades à l'extérieur. Bryan a passé sa série de yes kick que Cesaro a essayé de contrer, mais ça lui a fait très mal au bras. Cesaro a fait une sorte de JTS là, il a porté Bryan et lui a foutu un coup de genou. Au final, Bryan réussit à porter sa yes lock. Nakamura veut intervenir, mais Drew Gulak l'en empêche et Cesaro finit par tap out. Donc pas de Suisse dans le Money in the Bank match. Daniel
Ouais,
Bryan, il sera bien là. Kyrias, qu'est-ce que t'en as pensé? Est-ce que tu étais plus Team Bryan ou Team Cesaro pour ce Money in the Bank?
ah, j'étais, mais alors Team Cesaro à fond les ballons. Je pensais que ça aurait pu être une chance pour Cesaro d'avoir enfin un peu d'exposition et de victoire un peu prestigieuse pour changer quoi de son booking habituel. Et en fait non. Alors après le match, moi j'ai beaucoup apprécié ce match. Je l'aurais repris encore bien 5 minutes. Tellement je trouve que les deux se coordonnent bien et on
Ouais.
les échange assez fluides quoi. C'est pas du Dana Brooke qu'on a vu contre Naomi quoi.
Ah ouais. Ah ouais, c'est clair, ouais, c'est clair. Voilà,
Non, enfin.
c'était un match indie darling là, hein. C'était Claudio Castagnoli versus Bryan Danielson. Hein. Moi, j'aurais comme toi, j'aurais adoré ce combat si on avait eu du public.
Ah oui,
Et
aussi.
malheureusement, sans public, hein, moi je trouve que ça tombe à plat comme souvent, hein, de toute manière. Et effectivement, c'était bon. Effectivement, ça aurait mérité quelques minutes supplémentaires. Mais bon, puis bah, Cesaro, job as usual, quoi. Hein, j'aimerais bien avoir les statistiques de Cesaro à la WWE et savoir combien de matchs il a perdu depuis qu'il est arrivé à la WWE. Et en plus, ça doit être incroyable aussi le nombre de matchs qu'il a perdu face à des top quart d'heure, quoi. Ça doit être démentiel, quoi. C'est vraiment triste de ne pas l'avoir dans le Money in the Bank match, quoi. Mais bon, c'est comme ça, quoi. C'est le jobber to the stars, Cesaro. C'est comme ça. C'est son rôle.
Autant que Bryan aurait pu avoir une place pour un match à part. Enfin, Bryan, c'est quand même un main eventer établi.
Bah ouais.
Il n'a pas forcément besoin d'une mallette pour avoir des grosses affiches. Hein.
Ouais.
Tandis que Cesaro, lui, il a franchement besoin. Et en plus, dans ce rôle de heel, avec ses potes en ce moment, il pourrait faire quelque chose de bien, quoi, avec une mallette.
Ouais, et puis Brian, en plus, il aurait pu continuer à être dirigé vers le continental et à rester en feud avec Sami Zayn, tu vois quoi.
Mais
Donc
étrangement absent cette semaine.
Ouais, bah ouais. Ouais, il faut croire. Ouais. Bon, et l'ami Raphaël, il en pense quoi? Bon, l'ami Raphaël, aujourd'hui, il fait du chômage partiel, quoi. Des fois, il est là, des fois, il n'est pas là. Voilà, et, écoute. Enfin, moi, je suis quand même vachement déçu hein, par ce qui se passe avec, avec Cesaro. De toute façon, moi, je crois que ça fait quasiment un catch-up. On peut dire que ça fait 4 ans que catch-up existe. Et ça fait 4 ans qu'on dit qu'on est tous déçus par ce qui se passe avec Cesaro. Et malheureusement, le syndrome Cesaro continue et continue et continue encore, quoi. Ouais. Enfin, bon. Et du coup, t'avais vu, toi, Kyrias, t'avais vu le fameux match à WrestleMania face à Sami Zayn. Et moi, tu vois, c'est pour ça que je comprends pas pourquoi Bryan, finalement, il est pas revenu dans la. Dans... Surtout que Shinsuke Nakamura était présent là, ringside, là, pendant le combat, quoi.
Oui.
Donc il était où, Sami Zayn? T'as des nouvelles, toi?
Aucune. Ah, il m'a pas rappelé mon dernier message.
Putain, mais quel enfoiré, quoi. Non, mais les mecs, putain, pourtant, en ce moment, on peut pas donner l'excuse aux gens. Ah bah non, je suis pas là, ah bah non, je suis pas disponible, tu vois, quoi. Normalement, on est tout le temps disponible en ce moment, quoi. Donc bon, c'est vraiment une catastrophe, quoi. Bon, les amis, on a perdu notre ami Raphaël. Bah, je vais continuer le play-by-play, hein, et puis s'il revient, on prendra, quoi. Donc on va continuer. Donc après ce match entre Cesaro et Daniel Bryan, on a eu une petite... alors, je ne sais pas si je suis exactement dans la chronologie, mais on a eu une petite promo du Miz, quand même, quoi, qui était là pour hyper un peu le match par équipe pour les titres par équipe de SmackDown sans équipe. Voilà. Donc, ça, c'était quand même, c'est quand même, ça, c'est énorme, hein, quand même, hein, vraiment. Alors, même si moi, la semaine dernière, j'avais signalé que je trouvais finalement pas trop con qu'ils nous fassent le match inversé, quoi, avec les trois autres qui n'avaient pas participé au match à WrestleMania. Voilà, le Miz, il nous fait une petite promo rapide où il se plaint de devoir défendre le titre par équipe tout seul, quoi. Mais alors qu'il dit que bah, lui et John Morrison, c'est la meilleure équipe du 21e siècle, et il a peut-être pas tort, mais en tout cas, qu'il ait tort ou raison, bah, il a pas le choix, il est obligé de s'y coller et il va devoir affronter dans le main event de ce SmackDown Big E et Jey Uso. Mais avant, juste après cette promo, on commence pas par ça, on va avoir d'abord un segment. Alors là, mon Kyrias, j'attends de savoir ce que tu vas me dire, parce que ça, c'était quelque chose quand même. On a le retour du King Corbin, et voilà, dans le hangar du Performance Center, le King Corbin, il croise le Elias et le Elias qui est en train de se balader, et qu'est-ce qu'il trouve? Bah, rien de mieux à faire, bah, c'est de s'attaquer au Elias. Il le fait passer à travers une table, il le balance dans un camion de production, et après, il lui écrase sa grosse paluche, en écrasant le Elias entre deux caisses. Qu'est-ce qu'il va faire après? Bah, après, il va aller chercher la guitare, il va demander à Elias de nous faire une chanson, mais bon, finalement, il décide que autant carrément lui mettre dans la gueule la guitare, et voilà, il va péter à Elias de manière fortement convaincante que c'est lui le roi, et qu'il va faire agenouiller Elias devant lui. Voilà, il lui met, je crois, un dernier coup de crosse dans la gorge, et puis il repart tout fier, quoi. Ou alors, je me suis trompé, c'est le contraire, il lui met un peu de crosse, et puis après, il revient armé de la guitare pour lui cogner dans le dos. Et voilà, donc au final, Elias se fait une nouvelle fois tabasser par King Corbin, c'est loin d'être la première fois que ça arrive. Donc voilà, donc t'en as pensé quoi, mon bon Kyrias, de cette affaire-là, Elias Corbin?
J'ai juste pensé que c'était fini, cette histoire-là. J'aurais espéré voir le baron dans la charrette des...
Oh, c'est
qui s'est... Oh. Ah non, mais genre, pour te dire l'affection que j'ai pour le personnage, quoi.
Ouais, ouais, ouais. Ah bah ouais, là, si carrément tu souhaitais qu'il soit dans la charrette, là, oui, ça mesure toute ton affection, effectivement, que tu as pour le baron Corbin.
Ouais, non, je ne lui trouve rien. Rien de... Il traîne toujours avec sa couronne. Ça me désespère.
Ah ouais, non.
Donc,
mais...
le voir revenir encore une fois contre Elias, bon, encore, quoi. Un peu manque d'originalité, du coup, sur le segment, sur le fond, quoi. Dans la forme, c'était bien foutu, après. Mais non, je suis vraiment pas intéressé, c'est vraiment pas ma cam. Et Non, je sais pas, je suppose que toi non plus, tu n'es pas non plus
Ah
très
ouais.
enthousiasmé.
Ah non, moi non plus, quoi. Ouais, non, moi je suis pareil que toi. Hein. Ça m'a déprimé. Hein. J'ai dit non, mais c'est pas possible, ils continuent avec ça, ils veulent pas. Qui fasse un match, qu'on en termine une bonne fois pour toutes, quoi. Même si, enfin, en fait, il y en a eu un déjà. Mais bon, comme apparemment, ils ont décidé que cette rivalité ne devait pas se finir, ne se finira jamais, j'ai l'impression. Donc voilà, qu'ils fassent un match, un street fight ou un truc comme ça. Et puis qu'on n'en parle plus, quoi, qu'on règle le problème définitivement entre Elias et Corbin, quoi. Parce que vraiment, vraiment, je sais même pas qui est-ce que ça intéresse véritablement. Alors peut-être qu'auprès du public jeune, ça marche bien, parce que c'est ça le problème aussi, c'est que peut-être, en particulier moi, j'en ai peut-être décalé avec l'âge, ou je ne sais pas. Mais effectivement, que peut-être au niveau de la jeunesse, c'est peut-être une rivalité qui intéresse, quoi. Donc bah, tant mieux pour les jeunes, à vrai dire, hein, s'ils prennent du plaisir à ça, c'est tant mieux pour eux. Hein. Mais bon, moi, clairement, comme toi, apparemment, de toute façon, on n'est pas dans cette catégorie-là. Et vraiment, ça n'a pas d'intérêt. C'est vraiment. Oh là là là. Mais SmackDown, mais quelle catastrophe depuis des mois et des mois, quoi. C'est vraiment terrible. Bon, allez, on va essayer de reprendre de remettre un peu des sourires sur les visages.
Attends, avant de passer à la suite, j'ai cru comprendre aussi que le baron aurait droit à son match de qualification aussi pour le Money in the Bank.
Ah mais oui, ah mais oui, ah bah alors ça, ah bah là c'est la totale. Et puis à mon avis, c'est contre qui, tu sais? T'as percuté?
Contre Drew Gulak, je crois.
Ah, contre Drew Gulak. Ah purée. Ah d'accord, on va avoir un Gulak versus Corbin. Ah quoique ça semble peut-être mauvais quand même pour Corbin, parce que du coup ça veut peut-être dire interférence de Elias dans le match, ça. Donc
À espérer.
et d'ailleurs on peut même presque l'espérer, quoi.
Oui,
Parce
oui,
que
oui.
du coup, si peut-être comme ça permettra peut-être à Gulak d'avoir un ticket dans le Money in the Bank match. Et je préférerais largement avoir Drew Gulak que Baron Corbin dans le Money in the Bank match, hein, quitte à choisir. Voilà. On en est là, les amis. On en est là, peuple de ketchup, quoi.
Et du coup, je viens de regarder, il y a un autre match qui a été annoncé pour du côté féminin. Ce sera Lacey Evans contre Sasha Banks.
D'accord, ok. Ok, ouais, bah chez les filles, ça a l'air d'être finalement un peu mieux organisé. C'est assez logique finalement ce match, Lacey Evans, Sasha Banks, non?
Oui. Enfin, c'est dans la suite naturelle de l'histoire et la suite logique, quoi. Après,
Voilà.
puis en plus que ça tombe pour une place dans le Money in the Bank, ouais,
Ouais.
ça peut être un des scénarios intéressants.
Ouais, ça peut être pas trop mal, ouais, à la rigueur. À la rigueur, tu vois, quoi, si j'avais dû gérer moi le booking des filles, là, bah finalement, j'aurais peut-être fait un Lacey Evans versus Dana Brooke, et puis j'aurais fait un Sasha versus Naomi. Et comme ça,
Oui.
j'aurais qualifié Sasha et Lacey Evans pour le Money in the Bank match. Parce que du coup, finalement, un Lacey versus Sasha, ça veut dire qu'il y en aura une des deux, bah, comme Cesaro Bryan, quoi.
Ben, c'est ça.
Voilà, donc il y aura quand même une des nanas les plus actives du roster féminin du show bleu qui sera pas là au Money in the Bank match, quoi. Donc ouais, les choix à SmackDown continuent à rester très étranges. Enfin, bon bah, voilà. Bon bah du coup ça y est, on y arrive au main.
Oui,
On est dedans
on
là.
y est.
Donc là on a un triple menace entre le Miz, Biggie et Jey Uso pour le SmackDown Tag Team Championship. Voilà. Ceinture remise en jeu après le premier match par équipe sans équipe de WrestleMania. Donc on a le droit à notre deuxième match par équipe sans équipe. Et là, un match assez long, peut-être l'un des matchs les plus longs qu'il y ait eu à SmackDown depuis des semaines, voire des mois, en main event. Donc là, ça changeait un peu. Il y a eu pas mal d'interactions entre les trois. Ils ont tous les trois eu droit à leur quoi. Et avec un Biggie particulièrement chaud, vraiment pour moi le MVP du match, vraiment qui a été vraiment même quand il s'est pris une double souplesse qui fait atterrir sur la table des commentateurs qui va être détruite sous le poids du powerlifter là, bah même après ça il va quand même revenir. Jey Uso il va avoir une phase de domination, il va sortir le Miz du ring, il va enchaîner deux suicide dives consécutifs sur ses adversaires du jour. Il va finalement faire revenir le Miz pour lui coller un crossbody. Il est on fire, le Jey Uso, quoi. Il nous colle des running hip attack, mais bon, quand même, Big E, il revient dans le match. Il va coller un rock bottom, quoi, spécial dédicace à Dwayne Johnson. Le Miz lui va profiter de ça pour essayer de coller une Miz line au Big E, porter un elbow drop, mais ça va pas suffire parce que au moment du skull crushing finale, bah Big E va se dégager. C'est le Ouzo qui revient, qui colle un super kick au Miz. Il fait la même chose avec Big E, il tente à tomber, mais Big E se dégage à nouveau. Là, je commence à me dire que là c'est chaud, que le Miz quand même commence à l'air de vouloir prendre le dessus. Mais finalement, ça marche pas. Ça repart encore un peu en couille entre le Ouzo et puis le Miz. Le Miz, il va tenter un figure four sur Jey Uso, mais qui va être contré. Donc vraiment, on a vraiment une succession dans ce match, voilà, de moments forts, de contre, de near fall. Donc vraiment, un match qui, je pense, en public, aurait été vraiment super agréable à suivre. Et il y aurait eu certainement des belles interactions avec le public, quoi. Mais bon, finalement, tout ça tire vers sa fin. Le Miz, il va retenter un figure four leg lock. Il réussit presque à le transformer en figure eight, mais Uso, il résiste. Big E, il arrive, il intervient, il réussit à placer, à mettre le Miz en big ending. Il va coller son big ending au Miz, où le Uso, qui est trop fracassé, va pas réussir à venir contrer de tomber. Et c'est finalement Big E, we got a new champion, Big E qui gagne les ceintures par équipe, qui obtient donc quand même le 8e titre, mine de rien, et c'est pas rien, des New Day, le 8e titre de champion par équipe. Les New Day sont les nouveaux champions. Big E célèbre, mais comme un dingue, aux abords du ring, quoi. Il se roule par terre comme un enfant. Il embrasse les ceintures, il les lèche. Enfin bon, c'était pas très geste barrière, tout ça. Et puis finalement, bah, on a Kofi et Xavier qui sont confinés et qui interviennent par vidéo et qui montrent leur joie incommensurable de fêter le titre de loin avec l'ami Big E. Alors voilà, mon carrière, qu'est-ce que tu as pensé de cette prise de titre du New Day dans ce final de SmackDown?
Je m'attendais à une égalisation des Uso en termes de nombre de titres. Du coup, j'étais très surpris par ce finish de Big E vainqueur sur Big Ending. Après, le match était vraiment vraiment bien amené. Et effectivement, Big E, pas loin d'être le MVP du match, quoi. Après, j'ai beaucoup aimé la prestation de Jey Uso. Il a trouvé un peu le mise en retrait niveau lutte pure, quoi. Après, c'était un très très bon match qui, pareil, qui aurait mérité d'avoir un public derrière qui aurait été en feu, je pense. Sur la célébration, et ça m'a fait beaucoup rigoler. Déjà, le Big E, dès son entrée, on sentait qu'il était chaud bouillon. Non, c'était un bon main event pour une fois, un bon match de catch. Dans le contexte actuel, c'est ce qu'ils auraient pu faire de mieux, je pense. Après, je sais pas ce que t'en penses. Est-ce que t'aurais vu une stipulation, vu que la première partie du match entre les autres partenaires était un match à échelle? Toi, est-ce que tu aurais vu une autre stipulation ou un retour du match à échelle entre tous ces gars-là?
Écoute, je t'avoue même que moi, je m'attendais finalement qu'ils annoncent justement une stipulation. Et ça n'a pas été le cas. Ils ont décidé de faire un match simple. Voilà, un triple menace traditionnel. C'est particulier, quoi. Je sais pas pourquoi ils ont fait ce choix-là, quoi. Et après, je t'avoue que moi, ce qui me surprend, c'est pourquoi avoir redonné le titre au New Day, pourquoi ne pas avoir laissé Miz et Morrison en champion. Surtout que Miz et Morrison, en ce moment, ils sont dans la hype, ils ont sorti un morceau. Moi, je m'attendais vraiment à ce qu'ils conservent. Et pourquoi redonner ce titre au New Day? Je sais pas trop. En tout cas, les New Day, là, ils commencent à rentrer dans l'histoire, mais complètement, quoi. Là, c'est incroyable, quoi. Je serais curieux de savoir, il faudrait qu'on ait la stat, mais en jours combinés, combien de jours ont eu les titres, les New Day, mais ça doit être incroyable, quoi.
Ils ont le record déjà
ouais, ouais.
du plus long règne.
Ouais, ils ont déjà le record du plus long règne de l'histoire. Mais alors, en jours
Après,
combinés
si
pour.
on doit tout combiner,
Ah
effectivement,
ouais.
ça doit faire un paquet de temps qu'ils, où ils
Ah,
ont
mais ouais.
porté les ceintures. Hein.
Ça doit être phénoménal, ouais. Je te confirme que ça doit être assez incroyable, quoi. Donc, voilà, quoi. Donc écoute, ce SmackDown se termine là-dessus. Alors, nous, on va terminer, comme d'hab, avec notre procédure habituelle du top flop note. Mais comment dire, on avait un suiveur assidu de catch-up qui nous a posé des questions. Et donc, on s'était promis qu'on allait lui répondre quand même, parce que l'ami Gilbert, ainsi se nomme donc notre suiveur de catch-up, nous a demandé si pour le prochain SmackDown, en l'occurrence celui qu'on est en train de reviewer, si on pouvait lui répondre à ses questions. Donc, Kyrias, on va essayer d'être le plus clairvoyant possible pour répondre à l'ami Gilbert. Gilbert. Alors, première question de Gilbert. On passera au top flop note après. Est-ce qu'on peut envisager Brian Gulak dans la tag team pitcher? Quel est ton avis là-dessus?
Oui, ce serait pas une folle idée. Après, est-ce que c'est une équipe que j'ai envie de voir? Pas forcément. Mais après, c'est vrai qu'il ferait une bonne paire et il pourrait aller choper les ceintures assez facilement. Et ça ferait un beau renouvellement de tête d'affiche, quoi. Parce que là, les New Day, c'est un peu revu, mais même s'ils assurent, mais du Gulak, ça, Drew Gulak, ça lui ferait du bien pour sa carrière aussi, je pense, d'avoir un petit titre tag team.
Ouais, pas faux, ouais. Je suis assez d'accord avec ça. Moi, pour répondre à Gilbert, envisager Brian Gulak dans la tag team, pourquoi pas, de toute façon. Techniquement, ça sera pas dégueulasse, quoi qu'il en soit. Et sur le coup, je suis assez d'accord avec toi, effectivement, que pour la carrière de Gulak, en tout cas, ça sera un bon marchepied de prendre une ceinture. Et ça le permettrait de s'installer définitivement dans le main roster. Donc, écoute, pourquoi pas. Deuxième question, parce que l'ami nous a posé trois questions. Et c'est précis. Attention, hein, Gilbert, c'est un homme précis. Alors, deuxième question, mon Carias. Qui challengera Sami Zayn à Money in the Bank pour le titre intercontinental, à notre avis?
Bonne question. Très bonne question, parce que moi-même, je n'ai aucune idée. On nous a présenté personne depuis WrestleMania pour Sami Zayn.
Et ouais, personne, ouais.
Et du coup, ouais, on n'a aucune piste, aucun élément nous permettant de dire qu'un tel ou un tel va se retrouver dans ce chemin-là. Donc, aucune idée, franchement.
Ouais, bah pour le coup, t'as raison, parce que c'est une bonne colle, ça. Parce que, et si tu veux, d'office, moi j'aurais répondu Daniel Bryan. Mais étant donné que, bah, qualifié pour le Money in the Bank, du coup ça l'élimine. Donc effectivement, personne s'est présenté en challenger de l'intercontinental. Et d'ailleurs, on notera que non seulement personne, mais il a même pas été évoqué pendant le show, quoi. Donc vraiment c'est une inconnue. Donc moi, si je devais donner un nom comme ça à brûle pour point, pourquoi pas un mec de NXT qui débarquerait un peu d'out of nowhere. Et puis sinon, bah là, dans les babyface, j'aurais envie de dire Otis.
Qu'est-ce qu'il y a de libre? Ah non. Oui, non. Ah non, mais enfin, je dis un nom personnellement, mais ils en sont capables.
Elias,
effectivement, ouais, c'est celui que je pensais là à l'instant. Mais ouais. Bon, il est pris avec Corbin, quoi.
Bah ouais, malheureusement, ouais. Ouais, pourquoi pas Elias, quoi. Ouais, bon, écoute, voilà, Gilbert, écoute, si toi t'as un. Si tu nous entends, et je sais que tu nous entends, si toi, tu as un avis, donne-nous des noms. Un plaisir de les citer à l'antenne la semaine prochaine. Allez, et puis, troisième et dernière question de notre ami Gilbert. Alors là, attention, tiens-toi bien, Carias. Hein, j'espère que tu es bien attaché.
Je m'accroche.
Tu es bien attaché dans ton canapé spécial confinement, là. Est-ce que Mandy Rose est partie pour aller vers le titre féminin de SmackDown?
Surtout pas. Non, je pense pas, non. Je pense pas que ce soit le but, mais non, mais j'espère vraiment pas, parce qu'elle a pas les épaules, elle a pas le in-ring, elle a pas le mic skill, elle a rien pour elle. Remarque, si on prend comme référence Bayley, On peut se dire que oui, effectivement, elle pourrait très bien sur le papier l'être, mais est-ce qu'on en a envie, quoi?
Ouais, voilà, en fait, là, t'as posé la question fondamentale. Est-ce qu'on en a envie? Et la réponse à Ketchup, c'est non, je crois.
Je crois qu'on sera tous d'accord, oui.
Ah, mais ouais, mais Mandy Rose, c'est un balai sur le ring, t'as tout résumé. Elle n'a à peu près rien pour elle, à part sa plastique, qui, même pour moi, d'ailleurs, ne marche pas, puisque justement, je la trouve trop plastique, justement, cette nana, quoi. Donc, non, j'espère qu'elle n'ira jamais vers le titre féminin. Voilà ma réponse, Gilbert. Ah, voilà, allez, on a fini avec la foire aux questions spéciales, Gilbert. On va passer à la procédure habituelle. Mon ami Kyrias, ton top, ton flop et ta note.
Alors, mon top, je vais le donner... Ah, je vais le donner au main event, au match de main event, qui était quand même fort divertissant. Malgré encore une fois l'absence de public, mais les gars ont assuré avec un bon match où chacun a eu sa chance à mon avis et donc c'était bien foutu. Mon flop, je vais le donner, tirer sur l'ambulance avec les Bailey, mais non, je vais plutôt le donner booking de Sheamus pour le moment. Ouais. Pareil. Qui me déçoit beaucoup. Voilà.
Ouais.
C'est chez moi, c'est un de mes chouchous, je l'avoue, et je suis vraiment triste de le voir. Après, s'il rentre effectivement en feud contre Jeff Hardy, c'est bien pour les deux. C'est de son niveau, je pense. Mais je suis quand même déçu par rapport à comment on nous l'a présenté depuis son retour. Qu'il n'aille pas vers une ceinture. Voilà. Et pour ma note, je vais donner un simplement 2 pour un point pour le match Daniel Bryan-Cesaro et pour le main event. Et voilà. Le reste, c'était passable. Ouais. Voir, pour être poli, on va rester sur passable.
Il est bien élevé, ce garçon, ça fait plaisir.
Et toi, alors, Chris?
Bon, moi, écoute, mon top, ça va être comme toi, de toute façon, mon top, je le donne au main event, je le match, Miz, Uzo, Guy, quoi, voilà, c'était le meilleur moment de catch de la soirée, voilà, avec un gros match, les trois se sont donnés à fond, et voilà, on ne va pas répéter tout ce qu'on a dit précédemment, mais c'était clairement le meilleur de ce show. Mon flop, putain, purée, mon flop, j'aurais pu le donner à plein de trucs. Hein. Mais, ressentir dans ma note. Hein. Mais mon flop, du coup, je vais le donner à l'opener. Parce que moi, je suis absolument en désaccord total de mettre Braun Strowman dans un segment pareil. J'ai trouvé ça nul. Mais pour moi, Braun Strowman, c'est un personnage qui ne doit jamais faire ce genre de segment. Quoi. Jamais on doit mettre Braun Strowman dans un segment de talk show. Non. Ouais, moi, le mode Braun Strowman bisounours, mais ça passe pas du tout, quoi. Qu'il soit un babyface, ok, pas de problème. Ça, moi, j'ai rien contre le fait qu'il soit un babyface. Mais comme tu l'as dit au tout début, voilà, moi, je veux le voir péter des gueules, mettre des squash, coller des power slams à l'envi. Voilà, moi, c'est comme ça que je veux le voir, Braun Strowman. Mais en aucun cas, je veux le voir avec un petit micro posé dans un petit fauteuil club en train de boire du thé avec Alexa Bliss et Nikki Cross, quoi. J'en ai rien à battre, quoi, mais rien à battre de voir ça. Donc, moi, je refuse ça, quoi. Donc, je lui mets mon flop, mais puissance 1000, quoi. Et ma note, ça va être un 1,5, quoi. Voilà, ouais. Quoi. Je donne, comme toi, voilà, je baisse la note encore un peu plus bas, mais voilà, je vais mettre un 0,75 pour le Bryan Cesaro et un 0,75 pour le main event. Voilà, ça n'ira vraiment, vraiment pas plus loin que ça parce que ça méritait pas plus. Quoi. Bon, de toute façon, les notes de SmackDown sont tellement catastrophiques à l'heure actuelle que bon, et puis avec les shows sans public, de toute manière, ça n'aide pas. Donc voilà. Et c'est vraiment, tu vois, le main event, on lui a donné notre top et je pense que voilà l'exemple typique d'un match qui avec du public nous aurait carrément emballé, quoi. Nous aurait carrément transporté.
Est-ce que tu as une idée des audiences de ce SmackDown?
Alors là, non, pas du tout. Je ne sais pas, à moins que tu aies des infos, toi, mais moi, pour le coup...
Non plus.
Non, je n'ai pas d'idée. Bon, je sais que les audiences, par exemple, pour NXT, tournaient aux alentours de 690 000. Bah, pour SmackDown, vu comment c'était bas depuis pas mal de temps, j'imagine que ça doit pas être très gros. Mais dans ces cas-là, on y pensera la semaine prochaine, les amis, peuple de catch-up, et on vous donnera les audiences du SmackDown de la semaine dernière, quoi. Donc voilà. Et bah, écoute, comme on a perdu notre host, je vais me coller à tout ce qui concerne la fameuse auto-promo que tout le peuple de catch-up attend à chaque fois. Donc voilà. Donc bah écoutez les amis, vous pouvez nous retrouver déjà sur les réseaux sociaux, sur les réseaux sociaux habituels, hein, voilà, Facebook, Twitter, Instagram. On est sur YouTube. N'oubliez pas d'activer la petite clochette. N'oubliez pas, bien évidemment, de nous abonner, parce que plus vous vous abonnez, plus vous mettez des likes, plus on est référencé. Et ça nous fait quand même plaisir. On est bien évidemment sur toutes les bonnes plateformes de podcast, de podcatch même, j'ai envie de dire. Donc vous nous retrouvez sur Apple Podcast, vous nous retrouvez sur PodCloud, vous nous retrouvez sur Spotify, vous nous retrouvez sur Deezer, vous nous retrouvez sur Google Podcast. Voilà, j'ai fait le tour. Cette semaine, vous pouvez aller déjà en ligne. Vous pouvez trouver l'analyse d'Euro qu'on a fait avec la tag team Raphaël et Tonton Chris. Vous trouverez également bientôt en ligne, si ce n'est pas dès aujourd'hui, la baston du mercredi avec notre amiral Armbar et avec moi-même. Et donc, le SmackDown que vous aurez vécu un peu de manière un peu bizarre, où voilà, on a été trois, on a été deux, on a été trois, puis on est deux. Voilà, mais l'essentiel, c'est qu'on ait tenu le choc jusqu'au bout. Mon ami Kyrias, je te remercie fortement d'être venu faire le backup et de nous sauver un peu la vie dans nos problèmes techniques. Heureusement que tu étais présent. Merci à toi.
C'est un plaisir.
Un plaisir toujours renouvelé. Et puis, écoutez, les amis de catch-up, c'est qu'on termine cette réunion du 17 avril 2020. On vous souhaite une semaine pleine de catch. On vous fait les bisous. Salut Kyrias, salut peuple de catch-up.
Salut, salut.
Salut peuple de catch-up. La review avec les plus grands problèmes techniques ever de l'histoire de catch-up.
On est sorti.
Oui, on est toujours là.